Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture.
Pour toute une génération de journalistes de la presse musicale, des deux côtés de l'Atlantique, le nom de Lester Bangs est encore aujourd'hui synonyme d'idole, d'icône, de maître à penser, de modèle. Entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, il écrivit pour les revues Rolling Stone et Crime plusieurs centaines de textes qui donnèrent à la critique rock ses lettres de noblesse. Son style unique, alliant énergie, acidité, ironie, provocation et aussi une certaine mauvaise foi, lui conféra un statut à part dans les lettres américaines, bien au-delà donc du petit cénacle de la presse musicale. Au même titre que Tom Wolfe ou Hunter S. Thompson, Lester Bangs était considéré comme un représentant du journalisme gonzo, lui-même estimait être le plus doué de ces grands conteurs de l'Amérique. Il écrivait d'ailleurs sans s'encombrer de modestie. Qui était le meilleur écrivain d'Amérique ? Bukowski, Burroughs, Hunter Thompson ? Laissez tomber, j'étais le meilleur. Je n'écrivais pratiquement que des chroniques de rock, et encore, pas tant que ça. L'émission que voici est le premier volet d'une série de 5 consacrée à l'œuvre et à la courte vie de cette étoile filante de la critique rock américaine, disparue en 1982, à seulement 33 ans. Au micro de Marc-Alexandre Milenvoy, deux autres rock critiques et non des moindres, Nick Kent et Jim de Rogatis, qui racontent les débuts de la carrière de Lester Bangs. C'était le 19 juin 2000, dans Les Chemins de la Musique.
The number you have reached has been disconnected.
I haven't thought about Lester.
Lou Reed.
In ages. I don't think any, we weren't really that close.
Lester Bangs.
À la base, j'ai développé mon mode d'interview en posant aux artistes les questions les plus insultantes qui soient. Parce que le boulot de critique est terriblement ennuyeux, qu'il faut jurer obédience aux rockstars qui sont des personnes comme les autres. Ce sont des gens comme les autres. Le rock, c'est quelque chose qui doit vous faire sentir en vie. C'est quelque chose qui reste humain. Pour moi, le rock, c'est Elvis, Hank Williams ou Charlie Mingus.
J'étais de toute évidence brillant. Un artiste doux et un mâle sensible qui n'avait pas peur de montrer ses faiblesses. L'une des rares personnes comprenant réellement ce qui n'allait pas dans notre culture. Sujet sur lequel je parlais, donnais des leçons improvisées sans arrêt, surtout quand j'étais ivre, ce qui arrivait fréquemment, bien que pas tous les soirs. J'étais drôle, j'avais un sens de l'humour féroce, j'étais un individu vraiment unique et imprévisible, un artiste rock. J'étais probablement, sinon aujourd'hui, du moins demain, candidat au titre de meilleur écrivain d'Amérique. Qui était meilleur ? Bukowski ? Brooks ? Hunter Thompson ? Laissez tomber, j'étais le meilleur. Je n'écrivais pratiquement que des chroniques de disques, et encore pas tant que ça.
Cette série d'émissions exige sans aucun doute un parti pris. Celui de reconnaître que le meilleur écrivain américain des années 70 n'est écrit que des critiques de disques.
Lester Bangs est né à Escondido, Californie, en 1948. Il a grandi à El Cajon, Californie, qui signifie « la boîte » en espagnol, et où il a fait des choses telles que laver des assiettes, vendre des chaussures de femmes et travailler comme assistant pour équipe mari et femme, d'arrangements floraux artificiels, tout en rédigeant des critiques de disques en pigiste, feignant d'aller en fac jusqu'en 1971, quand il partit à Détroit travailler pour le magazine Cream. Au cours des 5 années passées là-bas, et à travers diverses responsabilités éditoriales, il définit un style de journalisme critique basé sur le son et le langage du rock qui finit par influencer toute une génération de journalistes et de musiciens plus jeunes.
Cet extrait d'autobiographie mérite qu'on y ajoute que Lester Bangs est mort en 1982, à l'âge de 34 ans, en laissant derrière lui plusieurs milliers de chroniques de disques, dont la quintessence est réunie aujourd'hui dans le recueil Psychotic Reaction et autres carburateurs flingués, paru aux éditions Tristram. L'œuvre de Lester Bangs est bien sûr méconnue, elle ne comporte que des critiques de disques, tout au plus quelques bribes de romans inachevés au nom évocateur du genre « Tout ce que vous auriez le droit de faire si votre mère s'appelait Iggy Pop ». Mais sa biographie, écrite par Jim DeRogatis, permet de jeter aujourd'hui un regard nouveau sur celui qui fut à la fois un théoricien de la critique et qui inventa, promut et nourrit une esthétique de joyeux dédain, un amour de ce qui pouvait passer pour du déchet et un mépris de toutes les prétentions qui, en 1976, prendrait le nom qu'il lui avait trouvé, le punk. Le débat de savoir si Lester Bangs était oui ou non un grand écrivain n'a pas lieu d'être. Nous ne cherchons pas à théoriser sur le rock et la littérature, mais plutôt à définir, à travers les obsessions de Bangs, à savoir l'art de la critique, le bruit salvateur ou la destruction de ces derniers mythes que représentent les rockstars, une esthétique du rock, en écoutant la musique qui servit de bande-son aux États-Unis dans les années 70. Des solos de free jazz au mur du son des Stooges, Lester Bangs considérait le son comme un programme de libération des masses, et voyait dans la musique populaire ou semi-populaire l'enjeu culturel de la deuxième moitié du siècle. Qu'est-ce qu'un disque de rock? Qu'essaye-t-il de nous dire? Qui sont les musiciens et quelle est la portée politique de la musique? Voilà l'essentiel des interrogations de Bangs. La critique est-elle réellement un art créatif? Écrivait Oscar Wilde. Pourquoi ne le serait-elle pas? Elle travaille avec des matériaux et leur donne une nouvelle forme délicieuse. Que peut-on dire de mieux sur la poésie? Jim DeRogatis est l'auteur de la récente biographie de Lester Bangs, Let It Blurt. Il est journaliste au Chicago Sun-Times.
Lester Bangs a découvert les beats un peu avant les hippies et un peu après qu'ils aient été à la mode. Il a grandi à El Cajon, une banlieue dortoir de San Diego, qui est déjà une ville américaine républicaine, conservatrice, très blanche. Et pour lui, ses livres beat, qui n'étaient déjà plus à la mode quand il s'est mis à les lire en 1961-62, représentaient cet amour de la vie et une manière d'échapper au conformisme ambiant. Quand les hippies en ont fait leur maître à penser quelques années plus tard, ils l'ont en quelque sorte réduit à « mettez un sac à dos et faites du stop à travers les États-Unis », ce que Kerouac lui-même détestait. Burroughs, lui, trouvait ça réducteur. Et il n'y a que Ginsberg qui était réellement proche des hippies. Lester, lui, n'a vraiment rien à voir avec le flower power des 60s. Je pense que ce qu'il aimait chez les Beats, c'était avant tout ce cynisme très sombre, cette haine du conformisme américain, et cet humour noir de Burroughs et de Kerouac. En même temps, il était tout à fait en accord avec Kerouac sur la spiritualité. Vous savez, quand Kerouac écrit sur le bebop, dans Sur la route, et sur le pouvoir de la musique à vous transporter, à vous élever, ça, c'est exactement l'écriture de Lester. La bande-son n'était pas la même, lui, il aimait le rock, mais il aimait aussi le jazz. Il croyait à cette notion de transcendance à travers l'art qui ressemble beaucoup à Kerouac. Je pense que le rock a volé 2-3 choses aux Beats et que Lester leur en a volé aussi quelques-unes. Cette idée que le langage peut être musical, que certains mots ont un pouvoir musical. Et je pense que cette honnêteté radicale, ces torrents de conscience et le fait de vivre dans l'instant, tout cela, c'est très rock'n'roll. Et tout cela vient des Beats. Le rock cherche toujours la gratification immédiate. Je ne sais pas combien d'artistes ont réellement lu ces livres, mais je sais que Banks a absolument tout lu de Kerouac et Burroughs. Il a fini par rencontrer Ginsberg en 1970. À cette époque, il avait déjà écrit 2 romans autobiographiques sur le mode du carnet intime mis en nouvelle. Et Ginsberg a été vraiment impressionné. J'ai vu la couverture de l'épreuve que Banks lui a fait lire, sur laquelle il a noté, en substance, c'est incroyable. Il a rencontré Burroughs plus tard, mais je ne sais pas s'ils se sont réellement rencontrés en tant qu'écrivains. Les Beats ont toujours été très romantiques, mais très égoïstes dans la manière de se regarder. Ils écrivaient sur eux. Je pense que Banks était totalement dans cette tradition. Il y avait un romantisme chez lui. Fondamentalement, c'était un reporter.
Jack Kerouac. It's the beat to keep. It's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown. And like in ancient civilizations, the slave boatmen rowing galleys to a beat. And servants spinning pottery to a beat. The faces. There's no face to compare with Jack Mingers, who's up on the bandstand now with a colored trumpeter who outblows him wild and dizzy, but Jack's face overlooking all the heads and smoke. He has a face that looks like everybody you've ever known and seen on the street in your time. Sweet face, hard to describe. Sad eyes, cruel lips, expectant gleam, swaying to the beat, tall, majestical. Waiting in front of the drugstore. A face like Hunky's in New York. Hunky, whom you'll see on Times Square, somnolent and alert, sad, sweet, dark, holy. Just out of jail, martyred, tortured by sidewalks, starved for sex and companionship, open to anything, ready to introduce a new world with a shrug. The colored big tenor with the big tone is blowing Sonny Stitt clear out of Kansas City roadhouses. Clear, heavy, somewhat dull and unmusical ideas which nevertheless never leave the music.
Le parcours de la musique rock, dans son acceptation et son intégration à la culture populaire, est assez semblable à celui du jazz. Une musique que l'on dédaigne à première vue, avec cette différence que tout de suite, le rock est lié au phénomène de la starification, des idoles, et que pour beaucoup de critiques dans les années 50, le rock est un fantasme adolescent avant d'être de la musique à part entière. Les journaux qui couvrent ce mouvement musical à l'époque, comme le New Musical Express ou le Melody Maker, sont des journaux de fans, où l'on se borne souvent à demander à un artiste de citer sa couleur préférée. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 60 que le rock commence à se politiser sur fond de guerre du Vietnam, d'explosions psychédéliques, de travaux autour de la texture même du son. Les progrès technologiques accomplis dans le domaine de la prise de son, l'invention du studio multipiste et par là l'abandon de la seule performance en faveur de l'enregistrement encourage les écrivains et les artistes à voir dans le rock un moyen d'expression à part entière. Ce n'est plus la personne qui importe, c'est l'objet. Le disque devient le premier lien entre l'artiste et le public et le premier sujet de critique. On ne se rappelle plus d'une chanson, mais d'une entité qui combine musique et technologie, arrangée d'une manière particulière, que l'on peut rejouer à l'infini sur un disque et seulement sur un disque. Aux États-Unis, des fanzines comme Crawdaddy, des écrivains comme Richard Metzler ou Nick Toschies comprennent l'importance de cette nouvelle forme d'art. C'est la deuxième vague de rock critique qui naît au moment où le rock est en phase de devenir le périodique de la jeunesse, un immense dazibao, comme un courant politique à même de fédérer la population adolescente la plus importante de l'histoire, le produit du baby-boom. La première tentative de fédérer le rock avec d'autres formes d'art a lieu en 1966, avec le premier disque du Velvet Underground, dont la pochette, qui représente une banane, est dessinée par Andy Warhol. La poésie de Delmore Schwartz côtoie les improvisations de John Cale, issu d'une culture classique. La douce voix de l'icône Nico répond aux accents stridents des guitares de Lou Reed, dans des shows performances, traçant le trait d'union entre le rock et le free jazz, mélange d'ombre et de lumière. La technique n'a plus d'importance, le minimalisme est revendiqué, l'atmosphère est étouffante, seul le son importe. Le Velvet Underground n'est plus un groupe, mais un projet. On rapporte une célèbre phrase de Brian Eno qui dit « Peu de gens ont acheté le disque du Velvet Underground, mais tous ont formé un groupe. » Lester Banks, lui, y trouvera l'envie d'écrire et de rechercher constamment ce qui peut se cacher dans la conscience d'un disque et dans l'esprit d'un artiste. Shiny, shiny, shiny boots of leather, with flash girl child in the dark, comes in bells, your servant don't forsake him. Strive, dear mistress, and cure his heart. Venus in Furs, Le Velvet Underground, 1966. Down he sins of streetlight fancies, chase the costumes she shall wear, ermine furs adorn imperious, Severin, Severin awaits you there. The boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me.
Colors made of tears. Extrait de notes sans titre sur Lou Reed, 1980. Lou, j'ai cru comprendre que tu voulais être dominant. Ok, domine-moi. Vas-y, réduis-moi en purée. Pire, gouverne ma vie, fais tout ce que ton esprit peut concevoir ou que ton cœur et tes sinus brûlent de faire. Est-ce moi qui ne peut l'accepter? Ou toi? Qui aimerais-tu vraiment tuer? Pas toi-même, car tu n'aurais pas fait tous ces albums sinon. D'autres gens trop nombreux, des gens spécifiques. C'est trop limité, trop débile. Tu sais que ta haine est tout à fait semblable à celle de n'importe qui. La vraie question est de savoir pourquoi vivre. Et je ne peux y répondre, excepté par un autre de tes disques et une autre occasion pour moi d'écrire. L'art pour l'art, c'est aussi ringard que ça.
Nick Kent, rock critique. Yeah, he
discovered Lester Bangs' writings in 1969, I guess. He started writing in Rolling Stone in 1969.
J'ai découvert Lester Banks en 1969. Je lisais Rolling Stone et j'ai remarqué son nom. Déjà un bon écrivain. Je suis devenu un vrai fan. Pourquoi cette musique est-elle bonne? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que vous aimez juste le fait que la guitare sonne bien? Ça suffit? Que dit le chanteur? Est-ce qu'il vous raconte une histoire? Est-ce que cette histoire vous dit quelque chose? Que le mélange du grain de la voix avec cet accord provoque quelque chose chez vous? C'est ça la musique. Voulez-vous rester dans le côté superficiel ou voulez-vous rentrer dans le concept de la musique? Je ne parle pas de critique musicale, je parle de l'écriture en général. Lester se modelait consciemment sur le personnage de Kerouac.
Very consciously molding himself on Jack Kerouac, but it not he wasn't doing what Kerouac did. He wanted to do for the 70s. He
had ne copiait pas, mais il voulait faire dans les années 70 ce que Kerouac avait fait dans les années 50.
Where Kerouac with the music that he heard, which was swing jazz.
Il avait la même vision que Kerouac avait avec le swing, le jazz pré-coltranien.
Kerouac
voulait transformer la musique en littérature. Il voulait écrire d'une manière aussi intense que la force que lui donnait la musique. C'est de là que vient l'énergie d'un livre comme Sur la route. C'est cela que Lester Banks lui a emprunté.
American writing and what he picked up from Kerouac was this thing of energy, just going all out. And that's how he lived his life.
Aller à toute allure. C'est ce qu'il a fait, et c'est de ça qu'il est mort. Il est dommage qu'il soit mort avant d'écrire le chef-d'œuvre que tout le monde attendait. C'était un écrivain bien au-delà de la musique.
The guy was a writer beyond the music.
Dire de lui qu'il était le meilleur critique de tous les temps ne suffit pas.
It's not enough.
C'est en 1967 que naît le mensuel Rolling Stone, dont le but est de couvrir la culture jeune avec les armes de la presse traditionnelle. En rattachant le rock à d'autres formes d'art, qui commencent aussi à se tourner vers la contestation, le cinéma, la mode ou la littérature, Rolling Stone et des journalistes comme Gril Marcus commencent à poser les bases d'une culture rock. Aux États-Unis, c'est aussi l'époque du nouveau journalisme. Des gens comme Tom Wolfe, Truman Capote ou Norman Mailer appellent à une nouvelle forme de critique, de reportage. Les années 60 sont celles de l'évolution de la société et des mœurs, et le rock est l'un des moteurs de cette évolution. Tom Wolfe, dans son anthologie « The New Journalism », plaide pour un journalisme qui se lirait comme un roman, au non-fiction novel, un roman de non-fiction. Le reportage est un roman, la critique, un poème. Lester Banks commence à collaborer à Rolling Stone en 1969, en répondant à une petite annonce dans le journal. Son premier article est un long pamphlet contre le MC5, l'un des premiers groupes punk de Détroit. Fan de rock, Banks avait lu une critique de l'album, l'avait acheté puis s'était senti dupé. C'est à Rolling Stone qu'il commence à forger son style de journaliste gonzo, pour reprendre l'expression de Hunter Thompson, bâtissant des chroniques imaginaires sur des albums n'ayant jamais existé. Un petit nombre de ces chroniques seront d'ailleurs publiées. En l'espace de 2 ans, le magazine Rolling Stone est devenu le porte-parole de la génération Baby Boom. La contribution de Truman Capote ou Norman Mailer Le combat, rapidement gagné pour faire accepter la crédibilité du rock, conduise rapidement le journal à rentrer dans le rang. La jeunesse a ses héros, ils s'appellent Dylan ou Neil Young. Dès lors, la politique éditoriale commence à changer. Plus question d'attaquer ou de remettre en question les artistes. Le combat est gagné, on se contente d'écrire sur la musique. Rolling Stone, basé sur la côte ouest des États-Unis, est embourbé dans une idéologie flower power dont il s'est fait le chantre et qui aujourd'hui ne produit pratiquement plus rien. Les critiques allumées et souvent négatives de Banks provoquent la fureur des maisons de disques qui subventionnent allègrement le magazine en publicité. Au même moment, à Détroit, le magazine Cream, proche du mouvement des White Panthers, se bat pour un retour au rock énergique et bruitiste, inspiré du free jazz. Dans un article du New York Times, on peut lire à l'époque « Contrairement à Rolling Stone, ce bastion de la contre-culture de San Francisco omnubilé par le rock orthodoxe, Cream se bat pour une esthétique des musiques populaires. Ce magazine parle aux fans qui considèrent le rock comme une expression de la culture urbaine. » Lester Banks publie ses premières chroniques dans Cream. Il part quelques mois plus tard pour Détroit. Extrait de Psychotic Reaction, prose pour cette période, Cream, juin 1971.
La réalité, c'est de rentrer chez soi en toute hâte pour entendre l'apocalypse exploser, franchir la porte d'entrée n'importe comment, niquer l'emballage plastique pour votre protection, sortir le disque. Ah, regardez-moi ces sillons d'un noir de jet. Sans encore la moindre tache, luisant tout neuf, si foutrement immaculé. Et puis, la couleur de l'étiquette, est-ce qu'elle rayonne d'aura chargée de subtils commentaires sur les sons qui vont en sortir? Ou bien n'est-ce qu'une surface plate d'un utilitarisme monochrome comme un mur d'école? Ainsi celle de RCA et de Capitol, après qu'un crétin quelconque les ait remises au goût du jour, parfait exemple d'authentique régression artistique. Et pour finir, vous posez le disque sur la platine, il tourne à vide pendant une seconde parfaite, aussitôt suivi par le moment de vérité. L'aiguille glisse dans le sillon et vient le son.
Over by the corner, got her hands by her side. They hit her harder, 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 ooh, till they thought she might die. Well, I got a fucking notion, do it again. Over by the corner, do it again. I got my cow and my lotion, baby, do it again. Well, I got a fucking notion, do it again. We'll be right back.
c'était Les Chemins de la Musique, première émission, Lester Bangs, une histoire du rock américain. Demain, le rock de Détroit ou Guide raisonnable pour Horrible Bruit.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 juin 2000. À suivre.